Bonjour à toutes et à tous. C'est pour nous une grande joie d'être parmi vous et merci. Merci au Seigneur de nous avoir gardés et de nous avoir permis vraiment ce séminaire, ce moment de rencontre, de communion fraternelle avec vous. Merci à Robert aussi, à Marie-Annick pour leur accueil. Et merci aussi à toute l'Assemblée. Et je vais laisser la place à mon épouse de se présenter. Je vais continuer tout à l'heure.
Bonjour à tous. Donc, bienvenue au Saint-Esprit. Je crois qu'au-delà de moi, je n'ai pas trop grand-chose à vous dire, à part que je suis heureuse d'être ici et heureuse avec mon mari d'être juste cet instrument pour ces temps d'adoration, de restauration. Je crois que déjà la présence de Dieu a déjà rempli nos cœurs de son amour. Et je crois que finalement, c'est tout simple. Et laissons-nous laver, purifier, remplir, être dans la joie, dans la paix. Hein. Tout ça, c'est pour nous maintenant. Et j'ai la joie d'être là et en espérant vraiment que tout ce que Dieu a prévu de faire, que ça arrive maintenant, à partir de la minute, l'instant présent. Voilà. Et merci de votre accueil en tous les cas. Que Dieu vous bénisse.
Merci. Bon, excusez-nous, on a amené du soleil, on vient de Montpellier, comme vous le savez. Mais ça s'est volatilisé en route, hein. On a eu des kilomètres, on n'a pas pu. Vous amenez ça jusqu'ici en Bretagne, hein. Ça n'a pas tenu. Mais c'est qu'on vous rassure, on a quand même le soleil dans le cœur. Hein, l'amour de Dieu. On vous communique cela, ça c'est le plus important. Ce que nous avons aujourd'hui, donc c'est vraiment l'amour de Dieu que nous avons donc pour vous. Nous voulons vraiment vous le communiquer. J'aimerais, oui.
Je l'ai tombé.
Excusez-moi.
On entendait quand même.
On entendait, ouais, d'accord, ok. Ouais.
Voilà.
Ouais. Normalement, pour introduire ce message, j'aimerais vous dire que, la Bretagne, j'ai vraiment à cœur la Bretagne depuis, je connaissais la Bretagne depuis que j'étais en Centrafrique. C'était en 83, par la connaissance d'une sœur, Marie-Annick, qui n'est pas là aujourd'hui au milieu de nous, qui a rencontré le Seigneur là-bas, qui m'a parlé vraiment de la Bretagne. Et je priais pour la Bretagne sans savoir qu'un jour, je viendrais vraiment annoncer l'évangile ici en Bretagne. Elle me parlait de la Bretagne, je priais pour les personnes. Quand elle est retournée en France, elle m'envoyait une liste de personnes. Et je mettais ça dans ma chambre, je priais pour des personnes. Elle était toute contente de m'envoyer. « Oh, cette personne, Dieu l'a touchée, allez encore, ainsi de suite. » C'était comme ça et on était en équipe, on travaillait en équipe comme ça, de loin. Et après, je suis venu en formation à l'école biblique, à la porte ouverte. J'ai passé 2 ans. Après la formation, elle nous a invités. Nous sommes venus en Bretagne, mais c'est joli la région. Hein. Au travers de cette belle région, on était à Saint-Servan. Hier aussi, on était ensemble avec Yves et Marie-Thérèse. Et c'était là que j'étais saisi par Dieu. J'ai prié, je voyais vraiment que cette région était déserte. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Envoie des ouvriers vraiment dans ta moisson. J'ai crié à Dieu. Là, je ne pouvais pas vraiment, ça m'a saisi comme ça. J'ai demandé au Seigneur. Et pour moi, ma mission, c'était terminée. J'ai dit, Seigneur, maintenant tu vas envoyer des ouvriers. Hein. Donc là, ici, ils vont vraiment faire ton œuvre. Et je suis retourné en Centrafrique. Pendant qu'un matin comme ça, j'étais en prière, j'ai l'Esprit de Dieu qui m'a dit, « Toi, vas-y. » Vous savez, quand Dieu, de fois, nous parle, je commence pour moi personnellement. Est-ce que vraiment, Seigneur, c'est de toi? Si c'est de toi, pourquoi, quand j'étais ici en France, tu ne m'avais pas du tout dit de rester et de commencer l'œuvre? Mais je commençais à voir les montagnes de difficultés, au niveau de l'ambassade, comment faire pour obtenir le visa, tant que j'étais déjà étudiant ici, et puis pour revenir, comment, surtout que des montagnes de difficultés. Et c'est aussi l'occasion, j'avais rencontré Yves et Marie-Thérèse aussi, en Bretagne, en Centrafrique. Et on a eu vraiment de très bons contacts là-bas. Et je ne savais pas du tout, à l'époque, je leur partageais vraiment ce projet aussi. On a pu prier, hein, je ne sais pas s'ils ont prié, mais ce qui est là, donc, au moment où j'ai dit, Seigneur, bon, maintenant, j'arrête de voir les difficultés. Si c'est de toi, tu ouvriras les portes. Si ce n'est pas de toi, que tu fermes la porte. Ce n'est pas la peine de vraiment de me prendre la tête au travers de tout ça. Ça, c'est ton affaire, ce n'est plus mon affaire. Hein, donc, et finalement, j'étais invité donc, par des amis. Il y avait un séminaire avec Yon Kishot en Suisse. J'étais à l'ambassade. Ils m'ont refusé le visa. Soit disant que j'étais déjà ici en France, donc 2 ans. Pour eux, c'est un moyen déguisé de pouvoir revenir et puis rester en France. Et le visa a été refusé. J'ai dit, bon, il n'y a aucun problème. Et un mois après, c'était, bon, ce visa que j'avais demandé, c'était un visa seulement de court séjour, hein, donc là, un visa touristique. Hein. Et puis là, un mois après, donc, il y avait donc, quelqu'un en Bretagne qui avait à cœur. Donc là, il y avait une œuvre donc, à Brest. Donc il faudra vraiment que cette œuvre qui a contacté Pierre Cruchel. Et Pierre Cruchel, à l'époque, quand je lui en ai parlé ce projet, on dit, bon, on prie, si c'est vraiment dans le plan de Dieu, Dieu ouvrira les portes. Et un mois après, il a reçu un coup de fil hein, de quelqu'un de Bretagne qui lui a envoyé, qui a téléphoné. Et du coup, il a pensé à moi, il m'a partagé ce projet. Nous avons prié pour ce projet. Et arrivé donc, à l'ambassade, la même personne, pour un visa maintenant, que je lui présente le papier, le dossier, un visa de non-séjour, il a mis OK tout de suite. Et le chemin a été ouvert. Pour moi, c'est vraiment un signe fort que Dieu me veut vraiment donc là, en Bretagne. Et les choses se sont faites. Donc, j'ai commencé en 92, hein, donc une œuvre à Brest. Bon, le début, hein, comme d'une œuvre, ça n'a pas été... On a vu vraiment la main de Dieu. On a vécu vraiment des choses fortes avec le Seigneur. Même Gisèle, qui est là, peut témoigner. Il y a de fois que le début... Vraiment, quand on était vraiment dans cette salle, il n'y avait personne. On mettait des chaises, on priait sur des chaises. Il faudra que je ne... Bon, excuse-moi, je vais rester tranquille. Mais je parle au niveau de la voix, je pense la voix. Non,
c'est bon, c'est bon. Bon.
Oui, on priait. On voyait les chaises vraiment se remplissaient, tout ça. Et puis à un moment donné... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a beaucoup de personnes qui commençaient à venir. Et puis, la propriétaire, cette dame-là, il dit, bon, maintenant, tu arrêtes les réunions ici et on ne veut pas et tu vous quittez. Vous cherchez un autre local. On ne veut pas. Mais pour moi, ça a été dur. Ça, j'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas envoyer les gens pour les laisser vraiment traîner dehors comme ça, mais Seigneur, fais quelque chose. Bon, il y a une sœur de l'église qui nous a proposé donc, de faire une réunion chez elle. On a été chez cette sœur, mais tellement qu'il y a des nouvelles personnes qui venaient chez cette sœur, cette sœur a eu peur. Elle dit, je ne connais pas ces personnes. Et peut-être que parmi ces personnes, il y a des voleurs, tout ça. Moi, je commence. Et quand elle commençait à s'inquiéter, elle dit, non, moi, je ne veux plus. Mais je me suis dit, Seigneur, on ne va pas quand même... Du coup, donc là, j'ai eu à cœur d'aller contacter un directeur donc, de la maison, une maison de quartier, la maison pour tous. Quand je suis allé, je lui ai exposé le problème. Tout de suite, il m'a remis la clé. Il dit, vous avez une salle à votre disposition. Et ça, pour moi, ça a été ouf, le miracle de Dieu. Pendant un an, on est resté dans cette salle et on a pu vraiment donc, là, faire... L'œuvre de Dieu pendant un an, Dieu nous a aidés. On a vu vraiment des choses jusqu'à ce que vraiment nous ayons, on a pu vraiment avoir un local restauré. Hein, donc le local c'était vraiment un hangar. On a pu travailler dans ce local et puis avoir notre propre local. On a eu l'inauguration, hein, je pense qu'il y avait Yves et Marie-Thérèse et Pierre Cruchel, président, donc Jean-Pierre Rich, qui était là aussi, qui sont venus donc, pour l'inauguration. L'église a commencé, l'église a bien démarré, tout ça, on était bénis, on était dans la joie. Du coup, les épreuves, l'opposition a commencé donc, de la part de l'ennemi. Donc, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour vous dire que je suis vraiment un témoignage vivant de la restauration de Dieu dans une vie. Parce que j'ai souffert. J'ai souffert que ce soit vraiment de la part des frères et sœurs. J'ai souffert de diverses manières. Hein. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul, mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Deux fois, on passe par les difficultés, on pense que Dieu nous a abandonnés, on passe par le tunnel, on passe, mais c'est toujours une étape. Dieu permet cela pour accomplir vraiment son plan. Prenons cela comme une étape, prenons cela comme vraiment un tremplin que Dieu utilise vraiment pour vraiment accomplir son plan. J'entendais toujours cette voix que je n'ai pas fini avec toi, je n'ai pas fini avec toi, je n'ai pas fini avec toi. Et une fois comme ça, je suis allé, c'était une réunion des hommes d'affaires, je suis allé comme ça. Il y a une dame, une prophétesse qui ne me connaissait pas du tout, qui est venue vers moi et dit, mais je vous ai vu dans le passé, vous avez un ministère et là, vous êtes en train de passer par un moment difficile. Dieu vous restaure, il vous redonne votre ministère. Je vous vois là en train, avec une grosse Bible en main, en train vraiment d'annoncer l'évangile. Bon, je me suis dit, bon Seigneur, que ta volonté soit faite, mais ma seule condition, c'est ça, je dis Seigneur. Si tu veux, je suis prêt, j'ai le cœur disposé pour te servir. Je suis venu en France, c'est pour te servir. Mais donne-moi, pour moi, une seule chose, que ce soit un signe pour toi, une femme qui a cœur pour Dieu, pour qu'ensemble, que nous puissions vraiment le servir. Bon, Dieu, quand on met Dieu à l'épreuve, Dieu nous répond toujours. Dieu m'a donné une charmante femme, hein, donc je suis heureux aujourd'hui d'être avec elle. Et je dis, comme les Canadiens disent, merci d'exister, Karine, pour Dieu, et merci d'exister pour moi. Et je te remercie. Merci, Seigneur. Donc, c'est pour introduire ce plan de la restauration. On va prendre dans le livre de Joël 2. Joël, je vais commencer par Joël. C'est normal, hein, je commence par Joël 2, verset 25. Joël 2, verset 25, il est dit, « Je vous remplacerai les années remplacées. » Dans d'autres versions, il dit que « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Gélecs, le Hazil et le Gazam. » Dieu veut nous remplacer, il veut nous restituer tout ce que l'ennemi nous a volé. Qu'est-ce que l'ennemi, peut-être c'est vraiment la joie du salut, peut-être vraiment la santé, peut-être vraiment ta paix, la finance, ton mari, peut-être ton épouse, peut-être également vraiment au niveau de la communion fraternelle, tout ça, tout ce que l'ennemi t'a volé, Dieu, en Jésus-Christ, tu peux vraiment le retrouver. Jésus a payé le prix à la croix. On voit vraiment que, quand on voit vraiment dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme pour avoir vraiment cette intimité, cette harmonie. Il avait vraiment cette harmonie avec l'homme, avec Adam et Ève. Et le mariage a été institué vraiment déjà au jardin d'Éden. C'était Dieu. Et Dieu les a bénis. Donc à ce moment, quand il y avait vraiment cette harmonie de l'homme avec Dieu et l'harmonie de l'homme avec son épouse, avant le péché, mais quand ils ont désobéi à Dieu, vous voyez la suite. C'est vraiment, cette harmonie a été rompue. Déjà avec Dieu, et l'homme aussi avec sa femme. Ça commence maintenant les disputes. Hein. Adam, la femme que tu m'as donnée, c'est la femme. Et la femme qui dit le serpent, et chacun essaie de rejeter la faute sur l'autre. Mais Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde et dans sa bonté, il ne nous a pas laissés. Il a envoyé son Fils, Jésus qui est venu payer le prix à la croix pour le pardon de nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Dieu nous aime. Et vous êtes au bon endroit cet après-midi. Il a dit, l'Église, la bonne nouvelle. Et je suis là pour vous annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Jésus qui sauve, qui guérit, qui libère les captifs, qui délivre, qui restaure. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Aujourd'hui, cet après-midi encore, il est là, présent au milieu de nous, pour opérer des signes, des prodiges et des miracles au milieu de nous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole ? Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Et à la croix, il a détruit les œuvres du diable. La parole nous dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et par la croix, c'est là que vraiment tout a été effacé. L'acte de condamnation qui nous condamnait, Jésus a effacé cet acte qui pesait sur nous. Tout ce que nous avons hérité de nos parents, de nos ancêtres, Jésus est venu vraiment pour nous libérer de toute captivité. Dit que celui que Christ a franchi est réellement libre. En tout cas, ce que je voudrais vous dire aussi, que Christ a payé le prix pour que vraiment nous vivons cette liberté. Et nous verrons un passage ici. Dieu, vraiment la bonne nouvelle, Jésus est venu nous libérer des captifs dont nous étions et nous a rétablis dans notre statut de fils et de filles de Dieu vivant. Nous sommes des enfants de Dieu, héritiers de son royaume et co-héritiers de Jésus-Christ. Ce qui est à Dieu est à nous, ce qui est à nous est à Dieu. Et on va voir dans Job, hein, Job, chapitre 42. Job, chapitre 42. Il dit, Job est un homme intègre. Hein. Vous voyez vraiment tout ce que Job a pu connaître. Ce n'était pas simple. Job a tout, hein, donc là, perdu. Mais c'est un homme droit qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Et donc au verset, je vais lire, je ne peux pas lire tout le passage. Je pense que malgré tout ce que vraiment Job a connu, mais il a gardé quand même la foi. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se levera le dernier jour, il me fera justice. Et même malgré tout ce que vraiment ses amis lui disaient, que ses amis, donc malgré cela, Job a tenu ferme. Et au verset 5, il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Au verset 10, il est dit, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état. » Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Vous savez, ça a commencé, je crois, quand Job a prié pour ses amis. Le fait d'abord, et pourtant ses amis n'étaient pas tendres avec lui, mais il a prié. Je crois que pour nous aussi, Dieu peut nous restituer tout ce que nous avons, tout ce que la vie nous a pris. Il nous donnera peut-être pas ce que vous désirez, ce que moi désire, mais il nous donnera le meilleur. Le meilleur, même s'il nous corrige à cause de notre désobéissance, mais par la repentance, nous serons de nouveau l'objet de sa bénédiction. Et le chemin de la bénédiction, pour moi, je peux dire, passe par la repentance et le pardon. Le pardon, ça coûte, mais ça rapporte. Hein? On va lire dans Matthieu 6, 14. Hein. Il est dit ici, si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste aussi vous pardonnera aussi. Et le verset 15, il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc le pardon est une puissance qui libère. Et Pierre lui-même, je pense qu'il a fait, on va lire ce passage-là de Pierre au Matthieu 18. Matthieu 18, verset 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7. » 77 fois 7 fois. Donc, pour Pierre, je pense que il s'est limité vraiment. Donc, je pense qu'il pense que vraiment le pardon a une certaine limite. Mais Dieu vraiment veut lui faire comprendre que, bon, il pense que le pardon, c'est du 400 mètres, mais pour Dieu, c'est vraiment du marathon. Hein, du marathon, donc d'être vraiment continuellement dans un état de dans un état pour pouvoir pardonner. Et Jésus lui-même dit dans sa prière, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Deux fois, vraiment, on voit dans les familles, que ce soit dans l'Église, vraiment le manque de pardon qui est là et ça nous ronge. Et ça détruit des vies. Et c'est vraiment une souffrance. Mais je crois qu'il faut, comme Dieu nous a pardonné, mais c'est à nous vraiment de prendre cette victoire, hein, de se lever. Je pense que quand on s'imagine que vraiment on est offensé et qu'on pense que c'est Jésus qui est offensé au travers de nous, ce n'est pas nous-mêmes, et Jésus nous donnera vraiment cette capacité de pouvoir pardonner. Cette force de pouvoir pardonner. Mais si on s'oriente, on pense que c'est nous, vraiment, qui est là, notre ego prend un coup, on en souffre. Mais je pense que là, le pardon, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option, mais c'est un choix. Je désire, Seigneur, vraiment le faire. Faire ta volonté, c'est ta parole. Et il y a un passage aussi qui dit, ici, surtout dans le texte de Matthieu 24, il dit que si tu, Matthieu 5, 23, si donc tu présentes ton offrande et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère et viens présenter ton offrande. Et ça peut être tout, que ce soit au niveau de la louange, au niveau de notre vie. Hein. Dans Romains, il est dit que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice de bonne odeur. Et quand on se présente devant Dieu, je pense qu'il y a toujours, pas du tout attendre, toujours, bon, c'est lui qui m'a fait du mal, c'est lui qui doit faire le pas, et après, non, mais je pense dire, non, je veux me dégager, me libérer de ça, je ne veux pas vraiment garder ces choses-là, je ne veux pas donner accès au diable pour pouvoir vraiment détruire ma vie et je fais violence. Je renonce à ça et je demande au Seigneur, aide-moi. Et ça ouvre vraiment la porte à des bénédictions dans notre vie. En Éphésiens 4, verset 32, il nous a dit, soyez bons les uns les autres, compatissants, vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Prendra aussi le passage du fils prodigue dans Luc. Luc 15, verset 22. Je vais lire tout le passage. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ?» Et moi ici, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes ouvriers. il se leva et alla vers son père. Comme il était encore en chemin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Vous savez, ici, dans ce passage, je pense que le Père le fils, c'est un enfant rebelle, on voit bien, qui finit par reconnaître son péché. Il est rentré en lui-même. Je crois que nous aussi, à un moment donné, on était vraiment des enfants rebelles. Hein. Et par la repentance, c'est un changement d'attitude, changement de mentalité, et vraiment prendre une nouvelle direction. Hein, Dieu met devant nous, il dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Et ça, vraiment, et c'est à nous, vraiment, le choix. Et nous, et je crois que parmi nous aussi, si vous êtes là pour la première fois, Dieu te cherche. Et Dieu veut vraiment avoir cette relation avec toi aujourd'hui. Il frappe à la porte de ton cœur. Il dit, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et Dieu veut entrer. Ce n'est pas simplement une simple visite que Dieu veut faire avec nous, mais il veut vraiment faire de nous, de notre corps, le temple du Saint-Esprit, habiter en nous et prendre vraiment toute la place qui lui est due, qu'il soit vraiment le Seigneur de notre vie et qu'il prenne toute la place et que c'est lui qui doit régner. Ce n'est pas nous, comme Paul l'a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand c'est Christ qui est en nous, est-ce que nous laissons la place, la première place qui lui est due et que c'est lui qui doit remettre vraiment de l'ordre là où il y a le désordre, là où il y a vraiment la haine, qui puisse retirer, mettre vraiment de l'amour, là où il y a la rancune, tout ça, là où il y a vraiment les ténèbres, qui puissent mettre la lumière. Christ veut vraiment restaurer tout ce qui a été abîmé par le péché. Il vient vraiment, il fait de nous une nouvelle créature. La Bible dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. En Christ, Jésus a payé le prix, il a tout accompli pour nous. Et en recevant Jésus-Christ dans notre cœur et en laissant régner vraiment sur nos vies, sur nos sentiments, notre caractère, nos émotions, tout, nous voyons vraiment la différence. Nous voyons les choses vraiment d'un nouveau regard et d'un nouvel angle. Il y a quatre choses qu'on doit voir ici dans ce passage que je vais lire ici. Donc, un enfant qui est rebelle, qui finit par reconnaître son péché et revient à la maison, son père qui l'entend et s'empresse de le pardonner. C'est la générosité et générosité paternelle qui accorde au repenti quatre choses. La première des choses, c'est la plus belle robe que rebelle le fils. L'attitude royale de notre Dieu. On voit ça déjà en Éden, qui couvrit la nudité du premier couple. Ça, on le retrouve dans Genèse 3, verset 21. Quand Dieu nous accorde le salut, la première des choses qu'il fait, donc il enlève notre vêtement souillé et il nous revêt d'un vêtement princier. Nous sommes des enfants de Dieu, des princes, des princesses. Quel privilège! Ah là là, on doit se réjouir, amen! On est vraiment des enfants du roi des rois. Hein? Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. On est des fils et des princes et des princes. Et dans Ésaïe 61, verset 10, il est dit, « Il m'a revêtu de vêtements de louange, il m'a couvert de manteaux de délivrance. » Il nous revêt de manteaux de louange. Il nous revêt de vêtements de louange. Il nous couvre de manteaux de délivrance. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Il délivre encore aujourd'hui, quels que soient les liens dans lesquels, la prison dans laquelle nous nous sommes enfermés. Je ne sais pas quelle est votre prison. Je ne sais pas si c'est au niveau éducation, au niveau culturel, au niveau également enseignement religieux, au niveau également occulte, ou que ce soit au niveau dans tous les domaines, au niveau des habitudes, au niveau des fonctionnements. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Il est venu vraiment briser ce joug, nous rendre libres. Celui que Christ a franchi est réellement libre. Et il veut vraiment que nous vivons vraiment cette liberté. Pas n'importe comment, mais vraiment en, selon lui, selon sa parole. Et la deuxième chose, les serviteurs apportent l'anneau caché à valeur de signature qui accorde richesse et puissance à celui qui la porte. Les serviteurs apportent de même notre... C'est comme une alliance, ce contrat d'amour qui nous lie avec Dieu et nous déclare héritiers de toutes les richesses célestes. La troisième chose que le Père lui dit, mettez-lui des souliers aux pieds sur le chemin. Je crois que sur le chemin de la vie, des souliers protégeront désormais l'ancien va-nu-pied. Hein. Donc, si on n'a pas de souliers, c'est là, on dit, il y a un passage aussi quand on voit dans les armes spirituelles. Il dit, prenez vraiment les chaussures qui sont vraiment les ailes de l'Évangile. Il faut avoir ces chaussures aux pieds, les ailes de l'Évangile. Hein. Donc, pour marcher avec ces chaussures, nous devons marcher d'une manière digne de l'Évangile et courir dans les œuvres que le Seigneur nous a destinées. Dans Colossiens, on va lire un passage dans Colossiens 1:10. Bon, je vais commencer en être. C'est pour cela que, 9, il est dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Dieu veut que nous portions des fruits. Des fruits, c'est fruits spirituels. Et que vraiment, nous soyons vraiment en bénédiction, que ce soit pour nous, pour notre famille, pour notre entourage, pour nos collègues, pour l'Église. Nous portons des fruits en toute bonne œuvre. Et la quatrième chose, on voit ici, c'est le verset 23, on lui dit, c'est dans un bruit joyeux de musique et de danse. Le Père qui dit le veau gras, de tuer le veau gras et qu'on apprête à célébrer le retour de l'enfant perdu. Et en notre honneur, le jour où vous êtes venus à Jésus, je pense que les anges ont organisé. Il y a eu de la fête dans le ciel et même il y a eu de la fête aussi sur la terre, dans l'Église aussi. Le jour où vous êtes convertis, vous êtes donnés à Jésus, je crois qu'il y a eu vraiment de la fête. Et pour nous également, je pense que je veux proclamer vraiment au nom de Jésus que vraiment tout, hein, attendez-vous vraiment à voir aussi vraiment ces enfants, nos enfants, que ce soit vraiment au niveau biologique, vraiment peut-être qu'ils sont partis de la maison paternelle, hein, leur retour. Attendez-vous vraiment à ce retour. Je crois que vous avez à cœur, vous avez prié pour ça, mais Dieu vous a écouté. Il a entendu vos cris. Attendez-vous pour faire une fête. Hein, on viendra, Karine et moi, pour se réjouir ensemble, pour les veaux gras, que même s'il n'y a pas de place, je crois qu'il y a la place à la verrie là-bas, on va vraiment se réjouir ensemble là-bas avec le veau gras. Et il y a aussi hein, donc, les enfants aussi spirituels, deux fois qu'ils partent, c'est une souffrance, ça fait du mal, et continuons à les porter dans la prière. Et Dieu a un plan pour eux, et celui qui laisse la 99 brebis, et qui va à la recherche de la brebis égarée. Et réjouissons-nous aussi pour le plan de Dieu, ce plan de salut pour ces enfants vraiment spirituels qui sont peut-être dans la nature et qui reviennent au Seigneur. Dieu est celui vraiment qui entend nos cris, il est celui qui voit, qui entend et qui répond. Il est le même. Notre Dieu est tout-puissant. Il est tout-puissant. Ne limitons pas Dieu par nos raisonnements. Ne limitons pas Dieu par deux fois nos schémas, des calculs et de la manière où il doit intervenir. Dieu est Dieu. Laissons-le libre et ayons cette foi, C'est la foi qui fait la différence. Qu'est-ce que la Bible, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole de Dieu qui est là. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Et croyons vraiment que Dieu va accomplir vraiment des grandes choses pour son peuple, pour son Église. Dieu veut bénir vraiment l'Église au travers, vraiment, oui, notre déjà, au travers ce pardon que nous allons vraiment nous aussi hein, se mettre en règle. Et dans Luc 15, verset 10, il est dit, « Sur la terre, la vie chrétienne a la saveur d'un festin, même s'il y a des épreuves, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » L'apôtre dit, « Réjouissez-vous. » Donc, la grâce intègre un processus de restauration au-delà de la réconciliation avec le Père Céleste. Décidons de vivre notre relation avec Dieu dans une atmosphère de fête. Non pas dans une atmosphère de tristesse, mais une atmosphère de fête. Réjouissons-nous toujours. Paul le dit, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que ce soit dans les bons, dans les mauvais jours, sachez que le Seigneur est toujours là. Et c'est lui qui fera la différence. C'est lui qui aura le dernier mot. Ce n'est pas l'ennemi. Accrochez-vous à lui. Donc, il dit, même si nous passons dans l'ombre de la vallée de la mort, il est là. Il est toujours avec nous. Il est là et il est l'Éternel qui nous délivre. Il va nous délivrer. Et donc, le non-pardon, je disais, c'est vraiment un poison vraiment qui nous ronge à l'intérieur et qui nous fait du mal et qui finit par nous détruire. Donc, prière de Jésus dit « Pardonne ». Pardon, c'est vraiment une merveilleuse puissance d'amour. Que Dieu nous aide à le vivre, à le manifester aussi dans notre Église, même s'il y a eu des choses douloureuses, il y a eu des rejets, des trahisons, abandons, manque d'amour, de gens peut-être qui sont victimes de violences, incestes, maltraitances, enfants non désirés, quel que soit le passé lourd au niveau familial, sentimental, professionnel, des blessures au niveau de vie d'Église, la réponse se trouve au pied de la croix. Jésus a tout accompli à la croix. Venons à la croix, déchargeons sur lui de tous nos soucis. Lui seul prend soin de nous. À la croix, c'est là que vraiment Dieu a tout accompli et nous pouvons recevoir la guérison, la restauration et aussi le pardon de nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Hein, donc le passé, Jésus veut faire vraiment une chose nouvelle dans notre vie. Il veut vraiment te donner un nouveau départ. Il veut vraiment faire des choses nouvelles. Il dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Le passé est passé. Souvent, l'ennemi est là pour nous rappeler notre passé. Mais rappelons-lui, vraiment son avenir, c'est dans les temps de feu. Et nous, c'est vraiment, on a un avenir glorieux. Tenons ferme avec le Seigneur et amenons vraiment nos pensées captives à son obéissance. C'est que la Bible, nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous allons vraiment vivre des choses avec lui. Et ce que, cher bien-aimé, ce que je voulais dire ici, demandons pardon donc à Dieu, à ceux qui nous ont fait du tort. Merci aussi. Hein, donc, je dis, nous avons ce choix de pouvoir vraiment, ceux qui nous font du mal, tout ça, c'est à nous vraiment de faire ce pas. J'ai bien aimé, nous désirons, je pense que c'est le désir de tout un chacun, je crois que c'est mon désir aussi, c'est de vivre un temps de rafraîchissement. Le peuple de Dieu a besoin d'être rafraîchi. Le monde a besoin de voir des sources d'eau vive au travers des frères et sœurs, hein, au travers également, hein, qui laisseront couler vraiment l'amour, le pardon, la guérison, la paix. Le Seigneur a besoin de nous afin que nous soyons des sources intarissables. Où il y a des querelles, nous soyons une source de réconciliation. Il y a où il y a la dépression, une source d'espérance. Le pardon est une puissance qui libère nous-mêmes, qui libère notre famille, notre assemblée, notre entourage, notre ville, notre pays. Le désir de Dieu, c'est de nous bénir à tous égards. c'est de nous bénir à tous égards. Il nous dit, vraiment dans son parole aussi, que vraiment, il veut que nous prospérons, soit nous soyons en bonne santé et que nous prospérons à tous égards. Nous prospérons à tous égards, c'est le désir de Dieu. Et ne passons pas à côté de cela, saisissons-le et mettons-le en pratique. La Bible nous dit, nous sommes heureux pourvu que nous mettons ces choses en pratique. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Merci pour le pardon que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Nous ne méritons rien, Seigneur, et par ta grâce, tu es venu vers nous, Seigneur. Et Jésus, tu as payé le prix à la croix pour que nous soyons, nous ayons vraiment cette réconciliation. Nous avons accès au trône de la grâce par ta mort. Tu nous as ouvert ce chemin. Aujourd'hui, Seigneur, tu vois vraiment mes frères et sœurs, tu connais vraiment le cœur, tu connais les besoins, tu connais les désirs, tu connais le blocage, tu connais tout ce qui vraiment nous empêche d'aller loin avec toi. Seigneur, tu ne désires pas que nous faisons du surplace, tu veux que nous allions plus loin avec toi, Seigneur. Tu as encore de bonnes choses vraiment à nous montrer, de nouvelles révélations, de nouvelles bénédictions, Seigneur, de nouvelles choses vraiment, mais Seigneur, aide-nous vraiment à mettre ces choses en pratique, Seigneur. Que vraiment le pardon soit vraiment un état, que nous vivons dans cette dimension de pardon, que l'Église vive vraiment dans cette dimension de pardon, Seigneur, qui nous libère, comme tu nous as affranchis, quand tu nous as pardonné, nous aussi, que nous puissions vraiment vivre cela, nous pardonner les uns les autres et vivre vraiment dans cet état de pardon, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que vraiment tu es là, Saint-Esprit, de faire vraiment, de nous aider. Là où nous sommes limités, là où nous sommes faibles, tu nous donnes vraiment ce courage, tu nous donnes la force vraiment de pouvoir pardonner, tu nous donnes vraiment la force de pouvoir recevoir de toi et te laisser régner vraiment dans nos sentiments, régner sur nos émotions, régner vraiment sur notre vie, prendre la place vraiment qui t'est due et vraiment faire le ménage vraiment dans tout notre être entier. Que vraiment, Seigneur, nous soignons, nous dégageons vraiment ce parfait de bonne odeur de Christ tout autour de nous, Seigneur. Que nos familles, que tout ce qui nous entoure, en nous voyant voir vraiment Christ et que nous produisons aussi des fruits dignes de repentance, Seigneur. Nous te le réclamons dans le nom puissant de Jésus. Amen. On est vraiment une lumière. Hein. Dieu a fait de nous une lumière. Il nous a fait transporter des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Il dit qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sur le boisseau, mais que notre lumière brille partout, que ce soit dans notre maison, tout autour de nous, cette lumière est appelée à briller. On a chanté ici, « Nul n'est comme toi, nul ne peut vraiment toucher notre cœur, c'est Jésus. » Il veut vraiment toucher, il veut vraiment nous transformer. Laissons-nous toucher par lui, encore ce soir. Laissons-nous transformer, laissons-nous visiter par lui, laissons-nous vraiment bousculer par lui. Son désir est que vraiment nous quittions. Il y a deux fois, il a dit à Abraham, « Quitte !» Il y a des choses que nous devons quitter pour laisser vraiment Christ prendre vraiment toute la place. Peut-être vraiment il a de nouvelles bénédictions pour nous, une nouvelle perspective, hein, donc pour nous aussi, qui va vraiment, un nouveau chemin qui doit vraiment s'ouvrir. Mais ça demande vraiment à nous de coopérer avec lui. Ne pas simplement de dire, oh, Seigneur, ouais, j'ai besoin, transforme-moi, mais à nous de faire le pas. Seigneur, je veux. Je désire, et je crois que là, maintenant, on va... La deuxième partie de ce message, c'est vraiment la restauration des familles. La parole nous dit, c'est dans 1 Timothée 5,8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Et je pense que l'un des principaux moyens par lesquels Dieu veut nous bénir est la famille. Dieu, que la famille soit vraiment une source de joie, de paix, de bien-être, de bonheur, d'épanouissement et d'accomplissement du plan de Dieu. Malheureusement, de nos jours, vraiment cette institution de Dieu est menacée aujourd'hui. Des mariages sont détruits ou ne fonctionnent pas comme ils pourraient et des vies brisées. Cela apporte pas mal de souffrances, hein, que ce soit des souffrances pour nous, pour les autres, tout ça. Et dans le psaume 23, David qui dit, « Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice. Le travail commence déjà en nous. Dieu restaure notre âme. Il restaure notre âme. Il conduit dans le sentier de la justice. Et là, maintenant, et les choses nous vont vraiment donc là bouger. Laissons Dieu vraiment nous bousculer. Laissons Dieu vraiment nous saisir, que la puissance de Dieu vienne vraiment faire son œuvre en nous. Saint-Esprit, hein, Dieu est parti, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit qui demeurera éternellement avec vous. Et le Saint-Esprit est là, coopérant avec le Saint-Esprit, laissez-le vraiment faire le travail, faire le ménage vraiment dans notre vie. Et deux fois, quand on se donne au Seigneur, hein, il y a vraiment cette harmonie aussi au niveau de la famille. Il y a deux fois, on est rejeté par notre famille parce qu'on n'est plus pareil. Tout ça, et deux fois, c'est nous aussi. Hein, donc, on dit, bon, on se détache. Hein, il y a deux fois de deux côtés. Mais je crois que, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit vraiment dans Colossiens 3, verset 12, hein, on va lire d'abord celui d'Éphésiens, Éphésiens 4, verset 32. Je vais commencer verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés par le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Amen. Soyons bons. Et revêtons-nous vraiment de l'amour. L'amour, vraiment, cette puissance d'amour est là vraiment pour nous guérir et pour que nous puissions vraiment apporter ce pardon tout autour de nous. Et dans le chapitre 5, donc, il est parlé que nous devons devenir imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Nous devons marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dans Colossiens 3, 12, il est dit « Ainsi donc, des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtons-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Je crois que là, tout l'équilibre que Dieu a voulu et l'harmonie que Dieu a voulu pour la famille dans une relation de réconciliation avec lui-même en tant que restauration de notre patrimoine familial, nous sommes réellement enfants de Dieu. Et nous avons été dans un premier temps réconciliés avec Dieu au travers de Jésus et nous sommes rétablis en tant que fils et filles de Dieu. Et Dieu nous a conduits vraiment dans une famille. C'est une grande famille. L'Église est une famille. Je crois que c'est ce que vous vivez ici, c'est une famille. Et dans une famille, il peut y avoir tout, hein, donc... Il peut y avoir des disputes, mais le pardon est là, l'amour est là. L'amour supporte tout. L'amour, tout ce que nous faisons, c'est vraiment, je crois que le moteur, l'essence, c'est l'amour qui doit être là. Et voir vraiment le frère qui est à côté de toi, c'est pas comme un autre, mais c'est vraiment ton frère. Celui que Dieu vraiment a mis à côté de toi, c'est ton frère. C'est ta sœur, c'est celui que Christ vraiment à payer le prix, vraiment la croix. Et vraiment, vivons vraiment cet amour. On voit dans l'Épître, on voit vraiment dans les Actes des Apôtres, on dit que l'Église était en paix. Et c'est cette paix, l'Église entrait en paix, et c'est là que après, s'édifiant hein, dans les enseignements, et qu'est-ce qui se passe? Il ajoute, le Saint-Esprit ajoutait les âmes qui sont sauvées. Et que cette paix soit là, vraiment, dans notre cœur. Soyons des ouvriers de paix. Et répandons vraiment cette paix tout autour de nous. Et il est dit aussi je crois par rapport à la famille, je crois que nous devons aussi, on a quand même un devoir par rapport aussi à nos parents, ceux qui nous ont mis au monde, même malgré leurs défauts, avec tout ce qu'ils comportent, ils restent toujours nos parents. La Bible nous dit honorer, nous devons vraiment honorer nos parents. Hein? Les enfants aussi doivent vraiment honorer les parents. Donc, je crois qu'il y a une clé qui est là, qui ouvre la bénédiction. Hein? Quels que soient leurs défauts, quels que soient, mais ce sont eux qui nous ont mis au monde. Et nous devons vraiment les honorer. Et la deuxième chose aussi, même si nous sommes chrétiens, nous avons vécu ça, mon épouse et moi, par rapport à sa sœur. Ça fait au moins, je crois, 8 ou 9 ans. Elle ne lui parlait pas du tout, mais elle a prié. Nous avons prié, elle a tenu ferme. Mais malgré que le message qu'elle lui envoyait, un petit message, aucune réponse. Mais non, elle n'a pas lâché. Elle n'a pas lâché au bout de 9 ans. Mais Dieu a conduit les circonstances. Et là, maintenant, la réconciliation s'est faite. Les relations sont vraiment restaurées dans ce domaine. Donc, nous, en tant que chrétiens, déjà prier pour vraiment les membres de nos familles qui ne connaissent pas Dieu. Et vraiment, s'il faut, vraiment, c'est à nous de faire le pas. C'est à nous vraiment de pouvoir montrer l'exemple, d'être vraiment... on a reçu Christ en nous. Même s'ils ne lisent pas la Bible, ils lisent vraiment en nous, Christ, au travers de notre comportement. Deux fois, on veut vraiment les matraquer par les versets bibliques, par ceci, allez. Mais non, c'est simplement par notre façon. Ce changement qu'on a vécu, que Christ a opéré en nous, et ça témoigne, ça parle plus que vraiment tout ce que nous pouvons vraiment, ce qu'on avait dit, notre patois de Canaan, mais c'est rien que seulement ça. Le témoignage, ce qu'on vit, ce qu'on fait, l'aide qu'on peut vraiment leur apporter, le secours, une présence, une oreille, c'est ça, qu'on soit disposé. Vraiment que Dieu nous utilise aussi dans ce sens. Et dans Colossiens, je crois peut-être avez-vous une pensée envers ceux de votre famille que vous avez délaissés un temps peut-être. Ils vous ont rejeté à cause de votre foi. Peut-être vous êtes en froid avec eux, quelles que soient les raisons. La parole nous dit, tant que la paix demeure de notre côté, soyons des ouvriers de paix. Et c'est à nous, chrétiens, de faire le premier pas. Si nous sommes remplis de la connaissance du Seigneur, alors je serai toujours le premier à faire le premier pas. Sinon, je suis simplement un religieux. J'ai besoin d'une transformation. Que Dieu change ce cœur de pierre en un cœur de chair. Dieu veut changer ce cœur. Laissons Dieu vraiment toucher notre cœur et rendre vraiment notre cœur sensible aux besoins vraiment des membres de notre famille, aux besoins également dans notre foyer aussi, entre époux et épouse, avec les enfants également, les relations dont nous dépendons aussi dans le monde. Que Dieu nous aide aussi. Et je crois qu'en tant que la parole est claire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné. Et femmes, soyez soumises. Mais nous, Marie, je crois que quand on aime vraiment, réellement notre femme, nos femmes, les femmes, tout ça, et j'écoutais un jour quelqu'un qui disait, mais donc la soumission, ce n'est pas du tout fais ce que j'ai envie que tu fasses, mais c'est la mission. Donc, la femme se met sous la mission que Dieu vous a confiée ensemble pour pouvoir l'accomplir. Elle se place sous cette mission, sous cette protection. La soumission, c'est une protection. Donc, que Dieu nous aide vraiment à vivre cela parmi nous et entre frères et sœurs aussi, que vraiment que nous puissions rétablir les choses aussi, que Dieu nous aide à rétablir les relations, que vraiment s'il y a des choses, vraiment un non-pardon, la façon aussi, il y a des fois, c'est au niveau aussi des pensées. Je vois ici dans la parole, il est dit, il n'y a ni grec, ni juif, ni africain, ni blanc, je peux dire. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous devons vraiment refléter Christ. Que Christ soit vu au travers de nous. Nous sommes une nouvelle créature. Donc, il n'y a pas d'excuse. On n'a pas d'excuse de dire parce que j'agis comme ça, parce que j'ai un sang méditerranéen ou un sang africain. J'ai cette... breton, non. J'ai cette habitude, c'est comme ça. Mais non, déjà, ça commence au niveau des pensées. Je crois que la lutte commence à ce niveau-là. S'il y a des pensées qui arrivent et qui ne sont pas vraiment à la gloire de Dieu, prenons position et rejetons cela. Et dire non, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Comme Jésus, quand il a été tenté au désert, il a dit, il est écrit. Et nous aussi, il est écrit la parole. Adora le Seigneur, ton Dieu, et lui seul. Et nous, c'est vraiment la parole, que la parole. Et c'est l'épée que Dieu nous a donnée. Je crois que face à vraiment la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas résister devant la parole de Dieu. Prenons vraiment la parole de Dieu. Nourrissons-nous vraiment de la parole de Dieu. Ayons vraiment cette intimité avec le Seigneur. Vraiment que nous soyons vraiment remplis vraiment de sa parole. Et nous pouvons vraiment proclamer vraiment cette parole devant les puissances. Parce qu'une pensée qui vient, et quand on entretient, après, on passe à l'action. L'action, on le répète, ça devient une habitude. Et puis après, ça rentre vraiment dans notre caractère. Ça devient un caractère. Mais déjà, le point de départ quand la pensée est là, non, on doit refuser. Il y a quelqu'un qui dit qu'on ne peut pas du tout empêcher à un oiseau de voler sur notre tête, mais on peut l'empêcher de faire son nid sur notre tête. On peut l'empêcher. Donc vous avez ce pouvoir au nom de Jésus de résister. Amen. Jésus a vaincu, il a triomphé de la mort. À nous de résister. Nous sommes plus que vainqueurs, nous dit la parole, par Christ qui nous a aimés. Christ nous a aimés, il a donné la victoire. Et cette victoire nous appartient. C'est à nous de saisir cette victoire, de marcher dans cette victoire. Et notre regard change de voir les choses comme Dieu voit, ne pas du tout. Donc, je crois qu'à un moment donné, de refuser vraiment donc là, au nom de Jésus, vraiment tout sentiment d'échec, que ce soit de fatalité, de dire que je n'y arrive pas, que ça soit bon, elle est comme ça, de toutes les façons, elle ne va pas changer, elle restera comme ça. Mais c'est des jougs de foi qu'on met sur des personnes. Faites attention vraiment à la parole, le pouvoir de la langue, cette parole qui sort. Des fois, on met des gens dans des prisons. On dit, cette personne, il ne va jamais vraiment s'en sortir, il ne va jamais. Et l'ennemi aussi qui nous souffle à l'oreille, tu vois, et on entend, on dit, oui, c'est vrai. Mais non, refusons cela, prenons cette victoire. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a que la parole de Dieu nous dit. Appuyons-nous sur lui et sur la parole, sur le Seigneur qui a vaincu. Et vraiment, marchons vraiment dans cette victoire. Nous ne sommes pas seuls. Nous, on ne lutte pas du tout. Notre combat, l'ennemi a été vaincu. Il est dit, Jésus a dépouillé les dominations des autres. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et nous, quand on lutte, je pense que la victoire a été déjà remportée. On ne lutte pas du tout, donc là, pour pouvoir remporter cette victoire, on veut la rendre visible, effective, que ce soit au milieu de nous, que vraiment les gens du monde voient. Et je crois que l'Église ne doit pas du tout vraiment être un champ où vraiment on est là vraiment à tirer les uns sur les autres, le fusil doit être tourné les uns sur les autres. Non, on est dedans. Ce n'est pas du tout une arène où on est là vraiment pour vraiment se bagarrer, mais au contraire, de s'aimer l'amour, de manifester l'amour de Dieu. L'amour est là, la paix de Dieu est là, la bénédiction de Dieu est là. C'est comme c'est la famille et Dieu envoie. Il dit, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Demeurons vraiment dans cet amour. Nous allons voir le ciel ouvert. Amen. Nous verrons des grandes choses. Amen. Dieu veut vraiment nous bénir. Il a encore des grandes choses à nous révéler. Dieu a des grandes choses à faire aussi au milieu de nous. Ici à Rennes, cette église est appelée encore à croître, à grandir. Et Dieu n'a pas encore fini son œuvre. Mais soyons prêts. Ayons un cœur disposé. Ayons un cœur vraiment rempli de l'amour de Dieu. Et laissons vraiment Dieu travailler en nous et au travers de nous. Dans Colossiens, je prends 3, versets 14 à 25. On va lire ce passage. Colossiens 3. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantons à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Oui, je pense qu'il y a des fois, il y a des tempéraments différents, mais que ce soit dans un couple, que ça ne soit pas du tout, je crois que c'est aussi, Dieu veut vraiment nous modeler une complémentarité, je crois que c'est une richesse, Dieu veut au travers de ça, même au travers également aussi dans l'Église, les dons, que tout ce que nous avons, que c'est simplement, on se complète. Donc, on est un corps. Il y a les bras, il y a les membres, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a tout, tout. Donc, on se complète. On est vraiment, c'est Christ la tête. Et il ne doit pas avoir vraiment de rivalité vraiment dans le corps de Christ. Donc, il y a des relations qui doivent être rétablies. Il est primordial que ce sont des clés qui vont nous permettre d'aller plus loin. Si dans notre foyer, s'il y a des problèmes, la bénédiction n'ira pas plus loin. Dieu ne pourra pas répondre sa bénédiction. Besoin que l'harmonie soit rétablie. Besoin pour plusieurs ici au milieu de nous de voir leur couple restauré. Restauration au niveau de la famille aussi. Restauration au sein de l'Église. Si nous prenons conscience avec un esprit de repentance, et si on se lève et dire au Seigneur plus jamais, et on demande pardon, je pense en prenant position, Dieu se lèvera en notre faveur. Et Dieu nous fera grâce et nous resterons dans notre position. Si nous restons dans notre position, elle va s'empirer. Et mari et femme, il faut que ces relations aussi soient rétablies, comme le montre la parole. Mari dans l'amour, la femme dans la soumission. Lorsque ces choses sont rétablies, il y a la paix, l'harmonie et la bénédiction qui couronnent tout ça, et surtout la présence de Dieu avec nous. En ce qui concerne les enfants, il est dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. On voit depuis mai 68 qui est passé par là, on a décidé de s'émanciper, en quelque sorte, un refus, une rébellion. Ce refus de reconnaître nos parents en tant que nos parents. Aujourd'hui, la question, reconnais-tu tes parents comme tes parents, ceux qui t'ont porté peut-être avec leurs défauts, avec tout ce que de leur souffrance, ils restent et demeurent tes parents. Nous sommes là, nous sommes en vie par nos parents et nous leur devons respect dans la parole de Dieu. Nous devons les honorer. Beaucoup de chrétiens dans ce domaine se privent de la bénédiction de Dieu. Ils se privent de cette communication. C'est une communication de vie. Parce que ces relations qui sont des bases dans la vie ne sont pas restaurées. Si nous voulons construire sur des pilotis, je pense qu'un jour, ça va être rongé par les vers et seront sur le point de se détruire et s'anéantir. Mais on a un rocher. C'est Christ, c'est ce rocher. Nous devons construire ces relations, vraiment, que ce soit notre couple, que ce soit au niveau vraiment de notre assemblée. Vraiment, Jésus, c'est lui le fondement, c'est lui la pierre angulaire. C'est sur lui que vraiment tout l'édifice coordonné vraiment s'élève pour former vraiment donc une maison spirituelle. Donc, nous devons vraiment construire quelque chose sur de solide. Quand on construit sur Christ, c'est quelque chose de solide. Donc, partageons notre foi, je pense, dans le respect. Et laissons-nous transformer par le renouvellement de l'intelligence, surtout. Autrefois, nous étions des enfants de colère, mais maintenant, nous sommes transformés. Et nous sommes, si nous venons à Christ, nous confessons nos péchés, la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et que nous portons ce que Dieu veut que nous portions. Dans Galates, on va voir. Déjà, dans Jean, il dit que si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. C'est à ceci que mon Père sera glorifié. Et ces fruits peuvent être aussi des âmes que vous apportez au Seigneur. Ça peut être aussi les fruits spirituels que vous portez, que les gens vont voir au travers de vous. Tous ces fruits, la gloire de Dieu. On va voir dans Galates. Galates 5, verset 22. Là, je vais... Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Que Dieu nous aide à produire vraiment ses fruits. Donc, nous avons eu vraiment ce temps. Hein, donc là, la première partie où nous avons parlé vraiment donc là de la partie de la restauration de l'être, notre relation déjà avec Dieu, tout ce qui a été abîmé en nous, tout ce que l'ennemi nous a volé, et que vraiment, s'il y a un besoin vraiment parmi nous, nous allons prendre le temps tout à l'heure vraiment de prier pour vous. Si c'est à vous maintenant de saisir vraiment cette victoire. Si vraiment l'ennemi ne sait pas, si c'est votre mari qui a été volé, votre femme ou votre santé, ou que ce soit la paix, que ce soit vraiment l'harmonie vraiment dans le couple qui a été brisé, le Seigneur est tout-puissant pour rétablir toutes choses, pour restaurer le couple, pour vous donner un nouveau départ, une nouvelle chance. Si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment le jour, un jour nouveau pour vous. C'est aujourd'hui le jour de grâce et le jour de salut. Si vous entendez ma voix, non, Dieu, ce n'est pas votre cœur. Venez à Jésus. Dites, venez à Jésus et il est prêt. Il est là pour répondre à vos besoins. Il est prêt vraiment pour vraiment vous toucher et pour vous vraiment donner un sens, un but à votre vie. Il est au milieu de nous. Il vous invite tout simplement, c'est venez à lui, tel que vous êtes. Dieu ne cherche pas, ne regarde pas. Donc, quand vous venez confesser devant lui, ce n'est pas du tout à cause de nos mérites, mais c'est par grâce. La Bible nous dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Et la grâce de Dieu est toute suffisante aujourd'hui. Encore pour nous toucher. La grâce de Dieu est là, au milieu de nous, pour vraiment nous donner ce nouveau départ, pour vraiment opérer des signes, des prodiges, des miracles au milieu de nous. Saisissons cela, ne passons pas à côté. C'est pour toi, peut-être aujourd'hui, ce jour-là, et Dieu te lance vraiment cet appel. Mon frère bien-aimé, vraiment, c'est à nous de faire violence, de dire maintenant, je veux vraiment... Là, maintenant, renoncer vraiment à tout ce qui est là, tout ce qui me bloque, tout ce qui empêche vraiment la bénédiction de Dieu, tout ce qui est là, qui fait de telle sorte que je n'avance pas. Ma vie spirituelle, je suis là, je fais du surplace, mais je veux aller plus loin avec Dieu. Je veux aller plus loin aussi dans mon appel. Dieu m'a appelé vraiment à le servir, mais Seigneur, je veux vraiment là me débarrasser de tout cela. Je veux répondre maintenant à ton appel. Oh, c'est merveilleux de servir le Seigneur, hein, qu'on puisse vraiment se lever. Et je crois que j'invite le groupe de louanges vraiment sur là de venir devant et puis l'équipe pastorale aussi. On va vraiment avoir un temps de prière ensemble, laisser vraiment ce temps au Saint-Esprit vraiment de faire l'œuvre dans chacun des cœurs. Ouvrez votre cœur, vous levez, si vous levez déjà intérieurement et vraiment aussi physiquement, levez et Dieu se lève aussi avec vous. Il va vraiment faire son œuvre dans votre vie. Et je le crois de tout mon cœur.
Bonsoir. Moi, le témoignage que je voulais donner, c'est un témoignage de restauration, évidemment. Hein, et c'est peut-être adressé spécialement au couple, puisque c'est un témoignage par rapport à notre propre couple. Et peut-être pour démystifier aussi certaines choses, dans la mesure où on voit des fois, on se dit, le pasteur est parfait, sa femme aussi, bien sûr. Et finalement, on est des êtres de chair, n'est-ce pas? Donc, comme la parole, le vocabulaire est bien employé, la chair est faible. Et donc, voilà, quand on s'est marié, bien, il a fallu s'adapter l'un à l'autre, j'allais dire. Hein, parce qu'il y a plusieurs étapes, en fait. Et L'étape du mariage, on a l'impression que c'est la plus importante dans le sens où on s'engage. Hein. On va dire, oui, je me marie avec M. Bogenham, en l'occurrence. On se dit, Dieu est là dans notre couple. Hein. On est assuré que, comme dit la parole, la corde à trois fils ne seront pas. Donc, entre le mari et la femme, il y a le Dieu qui est là et qui forme ce lien, on va dire, hein, ce lien qui fait que ça tient mieux qu'un autre couple. Donc, moi, assurée de cette parole, j'y suis allée en toute confiance, ça va marcher du tonnerre, il n'y aura jamais aucun problème. Les problèmes que j'ai connus avant, c'était avant, je n'étais pas chrétienne, donc c'est normal, hein, n'est-ce pas? Et puis, en plus, un pasteur, c'est parfait. Donc, je m'assurais vraiment, je m'étais mis toutes les bonnes cartes en main. Et puis finalement, il n'était peut-être pas complètement parfait. Et moi non plus, surtout pas moi non plus. Hein. Donc les premiers orages arrivant, il a fallu se rendre compte que justement, ce n'était pas forcément facile. Hein. Pas plus que... Enfin, si, plus facile qu'un autre couple qui n'est pas chrétien tout de même, parce que j'avais eu des paroles qui m'ont quand même beaucoup aidée, notamment une donnée par Yves le jour du mariage, qui avait dit « Ta grâce me suffit ». Alors, combien de fois j'ai pu répéter ce verset pour m'en convaincre moi-même, en disant « Seigneur, tu m'as dit « Ta grâce me suffit », donc ça doit être vrai, puisque tu l'as dit et... ». Et effectivement, j'ai quand même vu à maintes occasions la grâce de Dieu dans ces temps difficiles, parce que non seulement d'acclimatation l'un à l'autre, mais de chômage pour mon mari, enfin, on a cumulé quand même pas mal de difficultés. Hein. Je ne me rentre pas dans les détails, parce qu'il faut quand même aller vite, et puis que j'aimerais arriver surtout à l'étape de restauration. Hein. Donc, cette parole donc, m'a soutenue. Et ensuite, on avait eu aussi un autre couple de pasteurs. On avait été gâtés parce qu'il y avait je ne sais combien de pasteurs autour de nous le jour de la bénédiction, tous des amis de Joël. Et donc, le pasteur Clément, la femme du pasteur Clément nous avait aussi dit qu'elle avait une vision et qu'elle voyait qu'on allait écrire un livre dont les pages se tournaient et qu'on allait écrire ce livre. Alors moi, oh là là, j'étais aux anges, je me suis dit, ça y est, un beau livre merveilleux, il n'y aura que des bonnes histoires dedans. Tout ça, je ne m'étais pas non plus réalisé qu'il n'y aurait peut-être pas que des bonnes pages. Et puis, les difficultés venant, moi, personnellement, je vais plus parler en mon nom, puisque voilà, je n'ai pas été forcément toujours à la hauteur, parce que je pense dans la reconstruction d'un couple ou dans la construction, il y a des blessures d'avant qui sont toujours là et qui se rouvrent beaucoup plus vite que ce que j'aurais cru. Hein. Pour moi, je m'étais dit, ça y est, je me suis baptisée, la vieille femme est restée au fond de la baignoire, tout est réglé, j'aime Dieu, voilà. Et finalement, ce n'est pas toujours comme ça. Hein. Je pense que, enfin non, vous n'êtes pas comme moi, hein. Vous ne devez pas du tout connaître ça. Donc... j'ai dû me heurter me confronter à moi, mes propres limites et puis même mes rêves, enfin les idées que j'avais crues. Hein. Donc devoir me confronter et confronter des choses à régler. Hein. Donc moi, mon mari peut-être aussi de son côté, puis après ensemble, hein, parce que c'est comme un puzzle qui doit se joindre, hein, s'assembler correctement. Et apprendre à communiquer, parce que ça, c'est comme on parlait beaucoup de la restauration. Je crois que le relationnel dans la vie, c'est par là beaucoup que Dieu, que notre amour passe. Quand je relationne avec quelqu'un, que ce soit ma collègue, un ami, mon mari, dès qu'il y a le mot relation, je pense qu'il y a le mot amour. Mais que la communication, ça aussi, ça s'apprend, parce qu'on a en plus on avait des cultures différentes et donc, il a fallu faire tout un tas de démarches par rapport à ça, de réflexion, de prière et tout ça. Et un jour, j'étais au plus profond de mon désespoir, j'y croyais vraiment plus. C'est pour ça que vraiment je veux témoigner, parce que quand je me rappelle moi-même, j'ai l'impression que c'est une autre personne, quoi. Et je suis allée dans une convention chrétienne à Gagnères, certains connaissent, là, ici. Donc, il y avait un pasteur qui ne me connaissait absolument pas, je ne me souviens plus de son nom, qui faisait tous les enseignements, qui a dit, Dieu me montre, pendant un des temps de prière le matin, Dieu me montre une personne ici, Y a un livre, je vais essayer de ne pas pleurer en racontant, parce que c'est vrai que c'était vraiment très émouvant, parce que j'étais vraiment pas bien, et j'avais vraiment besoin que Dieu me parle. Mais j'étais tellement mal que j'étais sûre que je n'entendrais pas Dieu. J'étais qu'une amie chrétienne. Elle me disait, si, Dieu va te restaurer, Dieu va te faire du bien. Puis, je disais, ouais, bon. Et Dieu m'a parlé au travers de lui, qui lui a dit, je vois une personne dans cette assemblée donc, qui est venue, enfin, qui est mariée, qui a des grosses difficultés dans son couple, qui est désespérée. Et Dieu lui dit, tu vas écrire des pages de ton livre. Donc, il m'a redonné la vision, la parole, avec la vision qu'avait eue Cathy. Et donc là, bon, je fondue en larmes, etc. Et puis, j'ai commencé à y croire à nouveau, on va dire, hein, pour être franc. Et puis, la restauration, en fait, c'était pour encourager ceux qui en ont besoin, que ce soit dans n'importe quelle relation. Elle est passée par donc, les étapes de prise de conscience, d'accepter ses limites. Alors, il y a la fierté qui entre en jeu. Enfin, il y a plein de choses, hein, en fait. Donc, ce n'est pas toujours si facile. Et puis après, on en est venu au point de faire tout un travail de couple ensemble, hein, avec la prière toujours, bien sûr, mais pas que la prière, j'allais dire, parce que je pense que dans le mot relation, il y a aussi rentrer un peu de psychologie, enfin, hein, voilà. Donc, on s'est donné des outils et la restauration, elle est vraiment passée par un réengagement. On s'est carrément remariés tous les deux. Dans un petit studio, je revois toujours à Carnon, pour être précis, à côté de chez nous. On passait quelques jours là. Et on s'est vraiment réengagés. C'est-à-dire, on s'est regardés les uns dans les yeux, en s'avouant à nouveau, en se redemandant pardon, précisément sur des choses. Parce que des fois, pour revenir au pardon de tout à l'heure, faire attention avec le pardon aussi. Parce que des fois, Dieu nous dit, faut pardonner. Alors bon, allez, pardon, Marie-Thérèse. Puis à l'intérieur, je me dis... Hein, cause toujours. Puis des fois, même, elle va se dire, mais de quoi elle me demande pardon ? Alors moi, je disais, pardon, mon mari, si j'ai pas fait ci. Pardon, mon mari, si j'ai pas su être dans tel domaine. Voilà. Être précis sur le pardon. Parce qu'on s'amuse pas avec le pardon. On le balance pas comme ça. Et puis, oh, ça y est, j'ai fait. Hein, je crois que c'est quand même un acte vraiment important et tellement important qu'il faut l'avoir... vraiment fort dans son cœur, savoir l'exprimer, ce qui n'est pas toujours facile, que l'autre sache le recevoir. Donc ça, c'est encore pour vous engager que si tu vas trouver quelqu'un, lui demander pardon, puis il te dit « retourne chez toi », ce que j'ai vécu avec ma sœur dans l'histoire qu'il racontait tout à l'heure, elle n'était pas prête, ben, il a fallu attendre, 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 attendre. Donc on a refait cette démarche de pardon, on s'est réengagé en se disant que vraiment, on voulait construire. Parce que dans la restauration, donc une fois qu'il y a le pardon, je vais essayer d'être claire, on veut reconstruire après, hein, puisqu'il y a eu des choses abîmées. Donc, et là, on décide de reconstruire et on décide même des matériaux qu'on va prendre. Je vais prendre du ciment, ça, on ne l'avait pas pris, je vais le prendre plus qu'avant. Là, le respect, ah, t'aimes pas quand je te parle comme ça, bon, ben d'accord. On se donne même des petits trucs, si je dépasse la limite, tu m'arrêtes de telle manière. Enfin, des tas d'outils finalement que je crois que chaque couple peut trouver ou chaque personne, s'il a une relation, ça peut être avec les enfants, hein, à un certain âge, quand ils sont ados, tout ça. Et que moi, je pratique, moi je suis enseignante, hein, donc je pratique souvent avec les ados dans mon collège, de vraiment lui dire, bon, bah, d'accord, on ne s'entend pas ou ça ne va pas, mais qu'est-ce qu'on fait ? Donc essayer de trouver des solutions. Et de vraiment vouloir les prendre. Hein. De ne pas se dire encore une fois, « Oh, Dieu va m'aider. » C'est sûr, Dieu il nous aide. Mais pas au point, je crois que l'erreur de certains chrétiens, et que j'ai pu faire aussi, de dire, « Dieu va tout faire. » Ça, je crois que tout le monde l'a expérimenté. Il travaille avec nous. Hein, ça, on le sait. Bon, je vous donne des grandes vérités, certainement. Mais... On dit aussi, je m'engage avec mon mari, mais aussi avec Dieu. Oui, tu vois, je prends cet engagement. Et à partir de là, Dieu a vraiment pu nous aider à restaurer notre couple comme jamais il avait été, finalement. Parce que ça a pris vraiment une dimension, voilà, au-delà de ce qu'on était vraiment à l'époque, de ce qu'on n'arrivait pas bien à être, en fait. Hein. Et peut-être à encourager les autres. Enfin, j'espère que si on est passé par tout ça, c'est pour... pour encourager les autres, parce que On le sait très bien, tous qui sommes là, que quand on vit les choses, on est plus apte à les expliquer et à comprendre. Si le frère te dit ou dit à mon mari, mais là, ma femme, elle m'énerve, bon, ben, il sait de quoi il parle, quoi. Lui, il va lui dire, ah ben, c'est les hormones, ne t'inquiète pas. Bon, enfin, bref, je plaisante, mais on a un vécu. Hein, c'est pas une parole, c'est pas un conseil qui est vide de sens, c'est un conseil qui est ciblé, qui est réel. Hein, puis je crois qu'on a tous besoin de se dire, ben, on n'est pas des parfaits, etc. Hein, je crois qu'il n'y a jamais de honte à avouer quelque chose, si on vraiment veut changer, Dieu là nous aide. Et c'est vrai qu'on a vraiment vu cette grâce, et j'espère qu'elle continuera dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce qu'on a vécu sera pour aider les autres. Parce que voilà, si c'est notre rôle, ben, celui-là. Et puis, voilà, donc je vous encourage, pour ceux qui en sont, comme nous on dit entre nous, des cocos durs, de ne pas rester entêtés et vraiment de mesurer cette valeur de pardon et tout ce qu'elle peut apporter derrière, quoi. À la fois pour soi, parce que on s'enlève un poids. En fait, quand on pardonne, moi, ma sœur en question ne peut pas pardonner. Et je n'arrête pas de lui expliquer, mais c'est toi qui portes le poids de ce non-pardon. En plus, elle ne pardonne pas à son père qui est mort, à sa mère qui est morte. Alors je lui dis, mais tu ne vas pas faire ça toute ta vie. Donc libère-toi, toi. C'est peut-être très égoïste finalement au départ, mais on se libère soi-même, puis après on est beaucoup plus capable de donner que quand on ne se sent pas bien, ben, on a peut-être certainement moins à donner. Voilà, c'est tout simple, hein, mais en tous les cas, Dieu est là aussi, et c'est vrai que par ses visions, ses paroles qu'il nous donne aussi, c'est vraiment très encourageant, parce que c'est vrai que j'en avais besoin à ces moments-là, et voilà. Puis mon mari qui a su voilà, ne pas être comme certains hommes, des fois, qui restent dans une attitude un peu de fierté, ou à moins se remettre en question aussi, hein, parce que c'est une coopération. Voilà. Merci en tous les cas de m'avoir écouté.
Ah, merci Seigneur, merci Karine, merci. On est de vieux jeunes couples. Au mois de mai, on aura 7 ans de mariage. Hein. 7 ans, donc on remercie Dieu. Ce qui est bon, avec le Seigneur, hein, ce qui est là, il y a des hauts, des bas, mais ce qui est vrai, le Seigneur est toujours là. Hein, comptez vraiment sur la grâce de Dieu et faire confiance. Même quand tout va mal, vraiment faire confiance au Seigneur. Dire que c'est lui qui aura le dernier mot. Ce n'est pas du tout l'ennemi, mais c'est le Seigneur. Et vraiment s'accrocher à lui, s'accrocher. Et je pense que c'est là vraiment le secret de la victoire. Donc, pour moi, j'aimerais donc passer un autre témoignage, mon propre témoignage. J'ai 58 ans. Je suis né dans une famille chrétienne. Donc, j'ai grandi dans cette famille, j'ai eu une éducation chrétienne, tout ça. Mais Dieu, à l'âge de 11 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma vie, tout petit, hein, que ce soit mes parents. Moi, mon père était un homme de prière aussi, engagé avec Dieu, tout ça. J'ai baigné vraiment dans cette atmosphère-là. Même que ce soit pour mes études, j'ai vu Dieu, j'ai prié, j'ai vu vraiment la main de Dieu. Dans ce témoignage, quand je passais le bac, j'ai lancé un défi. Hein. J'ai dit, bon, Seigneur, j'aimerais avoir mon bac, hein, d'un seul coup. Je n'aimerais pas du tout passer par le repêchage, c'est seulement d'un seul coup. Bon, Dieu a décidé autrement. Repêchage. Oh là là. Bon, j'ai dit, Seigneur, bon, tu l'as voulu ainsi, que ta volonté soit faite, j'accepte, mais tu sais bien qu'en histoire géo, ce n'est pas mon point fort. Et là, je devais repasser l'histoire géo. Hein, donc j'étais fort simplement sur les matières scientifiques, tout ça. Bon. Et puis, on doit tirer un sujet au choix, j'ai tiré le sujet. Ce sujet-là, je ne sais pas si vraiment ça, comme moi, si ça existait dans mon cahier ou pas, donc rien, je ne connaissais pas ce sujet. J'étais là au fond, j'ai dit, Seigneur, Je te remercie de ce que tu as voulu que je passe par là pour échouer, mais je te remercie quand même que toute la gloire te revienne. C'était là ma prière. Et j'arrive pour présenter, je n'ai même pas besoin vraiment de dire un seul mot, comme ça. Ce prof-là m'a donné une note, il dit c'est pas la peine. Et puis, vu vraiment donc là, tout ton travail, j'ai vu quand même, ça a été. Il ne m'a même pas interrogé. J'ai vu, quand je suis sorti, c'était vraiment le ciel. J'ai béni Dieu, j'étais vraiment heureux, je sautais de joie. Pour moi, vraiment, c'était une expérience qui a marqué ma vie. Hein, donc là, j'avais demandé au Seigneur aussi, oui, j'avais à cœur depuis tout enfant de faire la médecine. Je suis entré en première année de médecine. Donc, quand on rentre à l'université, donc en ce moment-là, il y a la première année avec il y a des changements. J'avais des amis non chrétiens, tout ça. Ma vie chrétienne n'était pas du tout comme ce que je vivais avant. Hein. Donc, ce que j'aimerais insister pour les jeunes, donc là, vraiment, avec Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Et pas de compromis, en tout cas. Dieu désire qu'on ait vraiment un cœur tout entier à lui. Vraiment, Dieu est un Dieu jaloux. Ça, on doit le savoir. Hein. Donc là, moi, après, ça a commencé des problèmes. Première année, il y a eu des échecs. Bon, j'ai commencé à me culpabiliser. Je me suis dit, mais ben, c'est parce que Dieu, avant, j'étais vraiment tout avec Dieu. Dieu me bénissait. Et là, maintenant, comme j'avais un pied avec Dieu, un pied vraiment dans le monde, tout ça, et Dieu m'a complètement délaissé. Et l'ennemi qui te siffle à l'oreille, que tu vois maintenant, Dieu ne t'aime plus, il t'abandonne, tu n'es plus digne, ainsi de suite, pas mal de choses. Tu emmagasines et tu te dis, mais non, c'est fini, il n'y a plus rien. Un jour, donc là, j'ai accompagné une de mes cousines, donc là, chez une femme, une guérisseuse. Donc là, elle avait des problèmes pour avoir des enfants. Et cette guérisseuse, au lieu de s'adresser à elle, mais c'était moi, elle dit, mais toi, je te vois que ton avenir, toi, ta place n'est pas ici, donc tu es appelé vraiment à aller en Europe, poursuivre tes études en France, tout ça, mais il y a des blocages, mais je te donne quelque chose pour que vraiment tu puisses, donc à cette époque-là, je voulais changer, faire médecine militaire, hein, donc là, je vais entrer en faire, j'ai préparé tout le dossier. Cette femme m'a donné vraiment donc là, ce qu'on appelle le gris-gris. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accepté ce gris-gris-là. J'ai dit, bon, comme maintenant, je ne croyais pas, mais je prenais. J'ai dit, mais de toutes les façons, je vais quand même essayer, puis on verra. Hein, donc, il n'y a pas. Et j'ai pris le matin, je me pointe donc à l'état-major donc pour déposer mon dossier. Il y a un militaire qui s'est opposé à moi, il dit non, vous ne rentrez pas. J'ai dit, mais ça, je n'arrivais pas du tout à comprendre. Je suis retourné en fac. Et j'ai demandé à mes collègues, ils me disent, mais non, mais ils étaient là-bas, il n'y avait pas eu de problème, ils ont déposé leur dossier sans aucun problème. J'ai dit, mais ça me dépasse, j'arrive pas à comprendre. J'ai dit, bon, je retourne encore le lendemain, une autre personne, non, tu ne rentres pas. Là, je commence maintenant à revoir ma vie avec Dieu. Et vraiment, je commençais à pleurer. Vraiment, c'était vraiment des larmes de repentance. Hein. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça là? J'ai pris comme ça, j'ai jeté. J'ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, je vais rompre avec ces choses-là parce que ce n'est pas vraiment à ta gloire. C'est toi qui m'as déjà aidé durant toutes mes études. Et ce chemin que je suis en train de prendre en ce moment n'est pas ta gloire. Et j'ai pris position, j'ai dit, Seigneur, je refuse et je te demande pardon. J'ai besoin de ton aide. Et là, vraiment, j'ai vu vraiment, ouf, j'étais vraiment dégagé, soulagé comme un poids qui est sorti de moi. J'étais pas bien. Et du coup, Dieu m'a orienté autrement. Donc, j'ai fait 2 ans. À partir de la deuxième année où j'ai échoué, il y avait donc une porte qui est ouverte pour le technicien supérieur de laboratoire. Et tellement que j'ai vu, hein, donc, au moment que j'ai demandé pardon à Dieu, que je me suis repenti et que j'ai vraiment tout abandonné, je suis retourné à Dieu. Vraiment, j'ai la vie de Dieu maintenant. Dieu m'a visité d'une manière vraiment extraordinaire. J'étais tellement bien, vraiment avec Dieu, si bien que je n'ai plus vraiment envie de retourner même en FARC. Hein. Pour moi, c'était, je voyais, comme Paul disait, hein, tout ce qu'il voyait comme un gain, c'était comme vraiment la pourriture. Pour moi, c'était servir Dieu, aller de village en village, annoncer vraiment la bonne nouvelle de salut. Maintenant, le Seigneur me dit, c'était vraiment par un frère, hein, c'était dit que ce n'est pas encore le moment, retourne sur le banc de l'école. Mais j'étais triste, vraiment, de retour. J'ai accepté, mais mon cœur n'était pas là. J'ai dit, Seigneur, j'accepte, j'obéis, je vais retourner, mais j'ai besoin de ton aide. Mais malgré, je suis retourné, mais j'ai annoncé l'évangile, j'allais de village en village, annoncer l'évangile. Je n'ai même pas le temps. Je ne préparais même pas du tout mes cours, tout ça, mais non. J'ai fait la première année, j'ai eu passé avec succès, première année, deuxième année, troisième. J'ai eu mon diplôme, hein, comme ça. J'ai vu vraiment la main de Dieu. J'ai eu mon diplôme. Une fois, il y avait une sœur, hein, une sœur qui m'a parlé aussi, donc là, de son amie, la sœur Marianne, qui a une amie qui s'appelle Danielle, qui était vraiment en grande détresse. Elle m'a demandé de prier. Bon, donc, j'ai prié pour cette sœur-là. Le moment où j'allais vraiment, elle m'a demandé d'aller la voir pour lui apporter l'évangile. J'ai dit, mais Seigneur, ce que tu me demandes, ça me dépasse. Les Blancs, avec leur esprit cartésien, comment je peux lui expliquer par A plus B que Dieu existe? Parce que Dieu, ça se révèle, mais moi, ça me dépasse. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je te demande une chose, révèle-toi à elle avant que j'arrive, mais c'est ça me dépasse. Bon, Dieu m'a pris au mot, hein, donc je suis allé avant que j'arrive chez cette dame-là. Dieu s'est révélé à elle. Elle a entendu, elle était là chez elle, il y avait une puissance qui est tombée sur elle, et elle a entendu cette voix qui, au commencement, était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Sa vie complètement a été transformée, bouleversée. Elle s'est levée, elle a commencé à chercher dans sa bibliothèque, elle a trouvé une Bible. Quand elle a ouvert, c'est sur ce passage de Jean, et elle a eu le premier, elle est tombée. Je suis arrivé comme ça, c'était elle qui a commencé à me parler de Dieu, c'était pas moi, donc c'est le monde à l'envers. Je l'ai écouté, elle m'a vraiment parlé de sa conversion, elle a vécu vraiment quelque chose, vraiment de puissant, d'extraordinaire. J'ai dit, merci Seigneur. Et en plus de ça, il y a encore d'autres choses qui vont encore s'y ajouter. C'était un matin, j'étais chez moi comme ça, en train de prier. Saisi très fort, elle dit, va dans un village. Il y a un village que je ne connaissais pas du tout, donc à 22 km là où j'habitais, à Bangui. J'ai dit, j'arrive dans ce village-là, j'ai obéi à cette voie, je prends mon vélo moteur, hein, j'arrive dans ce village, je vois une dame qui est au bord de la route, je pose la question, je dis, cette dame, qu'est-ce que je dis? Il y a ma fille qui est là, donc ça fait 9 ans qu'elle est paralysée, qu'elle est là, donc il n'y avait rien à faire. C'est un village vraiment qui il y a plein d'occultisme, de sorcellerie, tout ça. Il y a vraiment ce village-là. Je m'envoie et j'ai senti que c'était pour cette dame que Dieu m'a envoyé. Et j'ai prié, je suis allé, j'ai dit, est-ce que je peux la voir? J'ai vu la dame qui était vraiment donc, couchée. J'ai dit, mais est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? J'ai dit, oui, je crois. J'ai dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Elle s'est levée. Elle a commencé à marcher. Et quand tu vois un village comme ça, tout le monde, hein, il y a tout le village, hein, qui vient. Et vraiment, elle s'est donnée au Seigneur, sa famille aussi. Bon, moi, je pensais, hein, donc, de fois, on limite Dieu. Hein, pour moi, je pensais que c'était Dieu m'a envoyé pour cette dame, pour sa famille. Et l'œuvre de Dieu doit s'arrêter là. Et que c'était comme ça que moi, dans ma pensais, et je devais aller de temps en temps les voir et puis essayer de l'exhorter, tout ça. Il y a trois semaines ou un mois passé, sans voir cette dame, je retourne. Cette dame est retombée dans la paralysie. Elle est retombée dans la paralysie, j'arrive, je vois vraiment la tête, et dit, ou je leur demande de dire, où est-ce que vous l'avez mis. La famille m'a dit qu'elle est chez les sorciers. Elle l'a ramenée chez les sorciers, encore de nouveau. Et là, moi, j'étais mal au fond de moi. J'étais mal, j'étais là, je leur ai dit simplement, allez la chercher, la semaine prochaine, je retournerai. Je vais prier pour elle. Et Dieu va vraiment agir. Dieu va vraiment faire quelque chose. Et au moment que j'ai dit ça, c'est vraiment une parole de foi. J'ai dit comme ça à la famille, je suis retourné. Et chez nous, il y avait la montagne. Hein, donc, il y a une montagne, une colline, là, Bazubangi. Donc, je me suis retiré un soir, passé vraiment une nuit avec un frère, vraiment avec le Seigneur, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. J'étais là, je cherchais Dieu, j'ai dit, j'aimerais comprendre pourquoi. Et c'est là que il m'a révélé que ce n'était pas ce miracle, c'était tout un village, tous les environs qui veut vraiment sauver. Le salut, c'est pas limité à cette famille. J'ai dit, ah Seigneur, merci. J'ai compris, donc je suis retourné, donc elle était là, priée. Puissance de Dieu descendue sur elle, guérie instantanément encore, de nouveau. Et ça a été vraiment, même les sorciers du village n'en revenaient pas, ils sont donnés aussi au Seigneur. On a commencé une cellule de prière, après il y a une église qui a vu le jour, et l'église a grandi, et puis après, donc l'église a ouvert encore d'autres annexes, hein, donc il y a tout le village, tous les environs qui a été vraiment, donc là, arrosé par la parole de Dieu. Et cette dame est encore vraiment une colonne dans l'église, mais malgré la guerre, vous voyez la situation en Centrafrique, où il y a la guerre depuis 3 ans, je viens d'avoir des nouvelles là-bas, elle est toujours là, en pleine forme, et c'est la diaconesse de l'église, référente, c'est une église vraiment de plusieurs milliers de membres maintenant, qui progressent malgré un temps de crise. Donc, c'est pour dire vraiment qu'on doit vraiment, ce que Dieu nous demande, c'est vraiment d'avoir un cœur vraiment disposé, hein, pour l'écouter, des oreilles pour écouter et pour obéir à ce qu'il veut, vraiment en tant que chaque, je crois que cela nous concerne, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chaque membre, en tant qu'Église, hein, Paul, quand il a rencontré Jésus sur la route, il a dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et deux fois, on a nos idées, on a nos schémas, on a vraiment donc tous nos plans déjà, hein, à l'avance. Et là, on passe à côté de ce que Dieu veut faire. On a un Dieu tout-puissant qui n'a pas changé. Et Dieu est bon. Et encore aujourd'hui, il guérit les malades, il sauve, il transforme les vies, il restaure, on parle de restauration, il restaure les vies qui sont vraiment brisées, il restaure les couples, il restaure les situations, ou des situations qui nous dépassent, où vraiment on passe, des fois c'est comme une sorte de tunnel, on pense qu'il n'y a pas d'issue, mais je crois que Dieu est tout puissant pour nous. Il y a toujours la lumière qui est là, un chemin tracé qui est là. Jésus, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et cette vie, il veut vraiment nous communiquer. Et je finirai par ce passage dans Luc. Hein, je vais lire Luc chapitre 4. Verset 17, hein. On lui remit le livre de prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et pour envoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui, ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Ce que Jésus est venu accomplir pour nous, il a accompli à la croix, il a tout accompli. Quel est vraiment, il n'y a aucune situation qui ne peut vraiment, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Hein, Dieu vous invite, là, ce soir, vraiment, à venir à lui, quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation. Peut-être le médecin, pour eux, vous avez été, ils disent vraiment des choses. Vous êtes condamné pour cette maladie, vous n'allez... Ça, c'est vraiment une maladie incurable, tout ça. Mais Dieu, le regard de Dieu sur vous, c'est un regard d'amour. Il veut vraiment, donc là, vous relever. Et il veut vraiment, donc, guérir vos cœurs qui sont brisés. Je ne sais pas si vous êtes vraiment sous un joug. Hein, je ne sais pas quelle sorte de joug. Peut-être, est-ce que c'est la cigarette? Peut-être il y a autre chose. Vous-même, vous soyez vrai hein, dans votre cœur avec Dieu. Et c'est vraiment de voir, d'affronter, de confronter ce problème, de dire, Seigneur, j'en peux plus, je veux vraiment sortir de cette situation. Je veux vraiment là me débarrasser de ça, je veux vraiment que ça s'arrête. Je veux prendre un nouveau départ. Seigneur, viens à mon aide. Il a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toute sa détresse. Dieu entend tes cris ce soir. Il veut vraiment te venir en aide. Il veut vraiment opérer dans ta vie. Il veut te sauver. Et Dieu ne veut qu'une seule chose, que vraiment que tu lui fasses confiance. Il t'appelle vraiment à décharger sur lui. Il dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous êtes fatigués ce soir? Est-ce que vous êtes fatigués? Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui est en train vraiment, qui vous pèse, qui est lourd? Mais Jésus a payé le prix, il est là. Il veut vraiment vous donner vraiment un nouveau départ. Hein, si vous ne connaissez pas, dit que tu peux naître de nouveau, balayer et recommencer hein, une vie nouvelle avec Christ aujourd'hui. Hein, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, il nous dit, c'est le jour de faveur que Dieu t'accorde aujourd'hui. Hein, ne saisissez pas sa main est tendue. Saisissez ses mains aujourd'hui. Ne passez pas à côté de cette main. Saisissez cette main, vous ne regretterez pas. Et Dieu a promis d'être avec nous. Il ne vous lâchera pas. Le Seigneur n'est pas du tout celui qui vous sauve. Et puis après, qu'il vous laisse comme ça tomber en chemin, non. Il a promis, nous, si nous restons avec lui, il est toujours là pour nous garder et jusqu'à vraiment son retour. Dieu est fidèle. Il est fidèle à son alliance. Il a dit, même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Et je crois que la fidélité de Dieu est là pour nous aujourd'hui. Il renouvelle cette fidélité envers nous chaque matin, nous dit la parole de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, je vais vous dire que Dieu vous aime. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie, pour votre famille. Dieu a un plan merveilleux pour votre couple. Même si l'ennemi vous montre que tout va mal, que vraiment tout va, hein, donc tout ça va vraiment se casser la figure. Non, ne croyez pas à ce mensonge et vraiment relevez la tête. Regardez, pas du tout aux circonstances, mais gardez les yeux fixés sur Jésus. Hein, c'est lui le consommateur, le rémunérateur de notre foi. Il est présent là au milieu de nous. Soyez bénis. Au revoir. Amen. Alléluia.